Chapitre 13. Comment un grand clerc d'Angleterre voulait arguer contre Pantagruel et fut vaincu par Panurge. En ces mêmes jours, un grandissime clerc nommé Thomaste, ouillant le bruit et renommé du savoir incomparable de Pantagruel, vint du pays de Angleterre, en cette seule intention de voir y celui Pantagruel et le connaître, et éprouver si tel était son savoir, comme en était la renommée. Et de fait, arrivé à Paris, se transporta vers l'hôtel du dit Pantagruel, qui était logé à l'hôtel Saint-Denis, et pour lors se promenait par le jardin avec Panurge, philosophant à la mode des péripathétiques. Et de première entrée, le voyant, tressaillit tout de peur, le voyant si grand et si gros. Puis le salua, comme est la façon, courtoisement, lui disant « Bien vrai, est-il ce que dit Platon, le prince des philosophes, que si l'image de science et sapience était corporelle et spectable aux yeux des humains, elle exciterait tout le monde en admiration de foi. Car seulement le bruit d'icel épandu par s'il est reçu aux oreilles des studieux et amateurs d'icel, qu'on nomme philosophes, ne les laisse dormir ni reposer à leur aise, tant les stimule et embrasse de accourir au lieu et voir la personne, en qui est dicte science avoir établi son temple et dépromet les oracles. Comme il nous fut manifestement démontré en la reine de Saba, qui vint des limites d'Orient et mer Persique pour voir l'ordre de la maison du sage Salomon et ouïr sa sapience. En Anatarsis, qui de Scythie alla jusqu'en Athènes pour voir Solon. En Pythagoras, qui visita les vaticinateurs memphitiques. En Platon, qui visita les mages d'Égypte et Architas de Tarente. Et en Apollonius Tyrannéus, qui alla jusqu'au mont Caucasus, passa les Scythes, les Massagètes, les Indiens, transféta le vaste fleuve de Fison jusqu'au Brachmane, pour voir Hyarcas. Et en Babylone, Chaldée, Médée, Assyrie, Partie, Syrie, Phoénice, Arabie, Palestine, Alexandrie, jusqu'en Éthiopie, pour voir les gymnosophistes. Pareil exemple avons-nous de Tite-Live, pour lequel voir et ouïr plusieurs gens studieux vinrent en Rome, des fins limitrophes de France et Espagne. Je ne me ose pas recenser au nombre et ordre de ces gens tant parfaits, mais bien je veux être dit studieux et amateur, non seulement des lettres, mais aussi des gens lettrés. Et de fait, ayant le bruit de ton savoir tant inestimable, j'ai délaissé pays, parents, maison, et me suis ici transporté, rien ne estimant la longueur du chemin, la tédiation de la mer, la nouveauté des contrées, pour seulement te voir, et conférer avec toi d'aucun passage de philosophie, de magie, de alchimie et de cabale, desquels je doute, et ne m'en puis contenter mon esprit, lesquels, si tu me peux soudre, je me rends dès à présent ton esclave, moi et toute ma postérité. Car autre don je n'ai que assez je n'estimasse pour la récompense. Je les rédigerai par écrit, et demain je ferai à savoir à tous les gens savants de la ville, afin que devant eux, publiquement, nous en disputons. Mais voici la manière comment j'entends que nous disputerons. Je ne veux point disputer pro et contra, comme font ces fous sophistes de cette ville et d'ailleurs. Semblablement, je ne veux point discuter en la manière des académiques par déclamation, ni aussi par nombre, comme faisait Pythagoras, et comme voulut faire Picus Mirandula à Rome. Mais je veux disputer par signes seulement, sans parler, car les matières sont tant ardues que les paroles humaines ne seraient suffisantes à les expliquer à mon plaisir. Par ce, il plaira à ta magnificence de soi y trouver. Ce sera en la grande salle de Navarre, à 7 heures du matin. Ces paroles achevées, Pantagruel lui dit honorablement : « Seigneur, des grâces que Dieu m'a données. Je ne voudrais de nier à Nulli en départir à mon pouvoir, car tout bien vient de lui de la sue, et son plaisir est que soit multiplié quand on se trouve entre gens dignes idoines de recevoir cette céleste manne de honnête savoir, au nombre desquels, parce que en ce temps, comme là bien aperçoit, tu tiens le premier rang. Je te notifie qu'à toute heure tu me trouveras prêt à obtempérer à une chacune de tes requêtes, selon mon petit pouvoir. Combien que plus de toi je dusse apprendre que toi de moi. Mais comme à protester, nous conférerons de tes doutes ensemble, et en chercherons la résolution, dont il la faut trouver, toi à moi. Et loue grandement la manière d'arguer que a proposée, c'est à savoir par signe, sans parler. Car ce faisant, toi et moi, nous nous entendrons et serons hors de ces frappements de main que font ces sophistes quand on argue, alors qu'on est au bon de l'argument. Or, demain, je ne faudrai à me trouver au lieu et heure que m'a assigné. Mais je te prie qu'entre nous n'y ait point de tumulte et que ne cherchons point l'honneur ni applaudissement des hommes, mais la sérénité seule. À quoi répondit Thaumaste, « Seigneur, Dieu te maintienne en sa grâce, te remerciant de ce que ta haute magnificence tant se veut condescendre à ma petite vilité. Or, adieu, jusqu'à demain. » « Adieu, » dit Pantagruel. « Messieurs, vous autres qui lisez ce présent écrit, ne pensez pas que jamais il y eut de gens plus élevés et transportés en pensée que furent toutes celles nuits, tant Thaumaste que Pantagruel. Car le dit Thaumaste dit au concierge de l'hôtel de Cluny, auquel il était logé, que de sa vie ne s'était trouvé tant altéré comme il était celle nuit. « Il m'est, disait-il, advis que Pantagruel me tient à la gorge. Donnez ordre que beuvons, je vous prie. » De l'autre côté, Pantagruel entra en la haute gamme et de toute la nuit ne faisait que ravasser après le livre de Béda des Numéris et Sinis et le livre de Plotin des Inenarrabilibus et le livre de Plocus de Magia et les livres de Artemidoras Peri Oniro Criticon des Anaxagoras Peri Sémion d'Inarius Peri Aphaton et les livres de Philistion, et Hipponax, Péri, Anec, Phonéton, un tas d'autres. Tant que Panurge lui dit, « Seigneur, laissez toutes ces pensées, et vous allez coucher, car je vous sens tant ému en votre esprit que bientôt tomberiez en quelque fièvre éphémère par cet excès de pansement. Mais premier, beuvant 25 ou 30 bonnes fois, retirez-vous et dormez à votre aise, car demain je répondrai et arguerai contre monsieur Langlois. Et au cas que je ne le mette ad meta non louis, dites mal de moi. » Don dit Pantagruel. Voir, mais mon ami Panurge, il est merveilleusement savant. Comment lui pourras-tu satisfaire? Très bien, répondit Panurge. « Je vous prie n'en parler plus et m'en laissez faire. Y a-t-il homme tant savant que sont les diables ?»« Non, vraiment, » dit Pantagruel, « sans grâce divine spéciale. » « Et toutefois, » dit Panurge, « j'ai argué maintes fois contre eux, et les ai fait quino et mis de cul. Par ce, soyez assurés de cet anglais, que je vous le ferai demain chier vinaigre devant tout le monde. » Ainsi passa la nuit Panurge à chopiner avec les pages et jouer toutes les aiguillettes de ses chausses à Primus et Segundus ou à la vergette. Et quand se vint à l'heure assignée, il conduisit son maître Pantagruel au lieu constitué. Et hardiment qu'il n'y eut petit ni grand dedans Paris qu'il ne se trouvât au lieu, pensant « Ce diable de Pantagruel qui a convaincu tous les sorbonicoles, à cette heure aura son vin, car cet anglais est un autre diable de Vauvert. Nous verrons qui en gagnera. » ainsi tout le monde assemblé, Thomaste les attendait. Et lorsque Pantagruel et Panurge arrivèrent à la salle, tous ces grimauds, arciens et intrans commencèrent à frapper des mains, comme est leur badaud de coutume. Mais Pantagruel s'écria à haute voix, comme si c'eût été le son d'un double canon, disant « Paix de par le diable, paix ! Par Dieu coquin, si vous me tarabustez ici, je vous couperai la tête à Trestou !» À laquelle parole, il demeure tout étonné comme canne, et n'osa seulement tousser, voire eussent-ils mangé 15 livres de plumes. Et furent tant altérés de cette seule voix qu'ils tiraient la langue 2 pieds hors de la gueule, comme si Pantagruel leur eût gorge salée. Lors commença Panurge à parler, disant à l'anglais « Seigneur, tu es ici venu pour disputer contentieusement de ces propositions que tu as mis, ou bien pour apprendre et en savoir la vérité ?» À quoi répondit Thomaste « Seigneur, autre chose ne m'amène, sinon bon désir d'apprendre et savoir ce dont j'ai douté toute ma vie, et n'ai trouvé ni livre ni homme qui m'ait contenté en la résolution des doutes que j'ai proposés. Et au regard de disputer par contention, je ne le veux faire. Aussi est-ce chose trop vile, et la laisse à ces marauds de sophistes. » « Donc, dit Panurge, si moi qui suis petit disciple de mon maître, monsieur Pantagruel, te contente et te satisfait en tout et partout, ce serait chose indigne d'en empêcher mon dit maître, parce mieux vaudra qu'il soit cathédrant, jugeant de nos propos, et te contente au parsus, s'il te semble que je n'ai satisfait à ton studieux désir. « Vraiment, dit Thomaste, c'est très bien. Commence donc. » Or, notez que Panurge avait mis au bout de sa longue braguette un beau floc de soie rouge, blanche, verte et bleue, et dedans avait mis une belle pomme d'orange. À donc, tout le monde assistant et spéculant en bon silence, Panurge, sans mot dire, leva les mains et en fit un tel signe, car de la main gauche, il joignit l'ongle du doigt indice à l'ongle du pouce, faisant au milieu de la distance comme une boucle, et de la main dextre ferait tous les doigts au point, excepté le doigt indice, lequel il mettait et tirait souvent par entre les deux autres sudits de la main gauche, puis de la dextre étendait le droit indice et le milieu, les éloignant le mieux qu'il pouvait et les tirant vers Thomaste. Et puis mettait le pouce de la main gauche sur l'angle de l'œil gauche, étendant toute la main comme une aile d'oiseau ou une pince de poisson, et la meuvant bien mignonnement de ça et de là, et autant en faisait de la dextre sur l'angle de l'œil dextre. Et ce dura bien par l'espace d'un bon quart d'heure, dont Thomaste commença à pâlir et trembler, et lui fit tel signe que de la main dextre il frappa du doigt milieu contre le muscle de la vole, qui est au-dessous le pouce, et puis mit le doigt indice de la dextre en pareille boucle de la fenêtre. Mais il le mit par-dessous, non par-dessus, comme faisait Panurge. Ah donc, Panurge frappe la main l'une contre l'autre et souffle en paume, et ce fait met encore le doigt indice de la dextre en la boucle de la gauche, le tirant et mettant souvent. Et puis étend, dit le menton regardant intensément Thomaste, tout le monde, qui n'entendait rien à ces signes, entendit bien qu'en ce, il demandait, sans dire mot, à Thomaste, « Que voulez-vous dire là ?» Et de fait, Thomaste commença à suer grosses gouttes et semblait bien un homme qui était ravi en haute contemplation. Puis, s'advisa et mit tous les ongles de la gauche contre ceux de la dextre, ouvrant les doigts, comme si c'eussent été demi-cercle, et élevait tant qu'il pouvait les mains en ce signe. À quoi Panurge soudain mit le pouce de la main dextre sous les mandibules, et le doigt auriculaire d'icelle en la boucle de la main gauche, et en ce point faisait sonner les dents bien mélodieusement les basses contre les hautes. dont Thomas de Grand Ahan se leva. Mais en se levant, il fit un gros pet de boulanger, car le Bran vint après et puait comme tous les diables. Et les assistants commencèrent à s'estouper les nez, car il se conchiait des angusties. Puis leva la main dextre, la cloua en telle façon qu'il assembla les bouts de tous les doigts ensemble, et la main gauche assit toute pleine sur la poitrine. À quoi Panurge tira la longue braguette avec son floc, qu'il étendit d'une coudée et demie et la tenait en l'air de la main gauche, et de la dextre prit la pomme d'orange et la jetant en l'air par 7 fois, la 8e la cacha au point de la main dextre, la tenant en haut tout quoi, et puis commença à secouer sa belle braguette en la montrant à Thomas. Après cela, Thomas commença à enfler les 2 joues comme un cornemuseur, essoufflé, comme s'il enflait une vessie de porc. À quoi Panurge mit un doigt de la gauche au trou du cul, et de la bouche tirait l'air comme quand on mange des huîtres en escale, ou quand l'on hume sa soupe, et ce fait ouvre quelque peu la bouche, et avec le plat de la main dextre en frappait dessus, faisant en ce un grand son et par fond comme s'il tenait de la superficie du diaphragme par la trachée artère. Et le fait par 16 fois. Mais Thomas soufflait toujours comme une oie. A donc, Panurge mit le doigt index de la dextre dedans la bouche, le ferrant bien fort avec les muscles de la bouche, et puis le tirait et le tirant faisait un grand son, comme quand les grands garçons tirent d'un canon de ceux avec belle rabe, et le fit par 9 fois. À quoi Thomas s'écria « Ah, messieurs, le grand secret !» et puis tira un poignard qu'il avait, le tenant par la pointe contre-bas. À quoi Panurge prit sa longue braguette et la secouait tant qu'il pouvait contre ses cuisses, et puis mit ses 2 mains liées en forme de peigne sur la tête, tirant la langue tant qu'il pouvait et tournant les yeux en la tête, comme une chièvre qui se meurt. « Ah, j'entends, dit Thomas, mais quoi ?» faisant tel signe qu'il mettait le manche de son poignard contre la poitrine, et sur la pointe mettait le plat de la main en retournant quelque peu le bout des doigts. À quoi Panurge baissa la tête du côté gauche et mit le doigt milieu en l'oreille dextre, élevant le pouce contre mon, et puis croisa les 2 bras sur la poitrine, toussant par 5 fois, et à la 5e frappant du pied droit contre terre, et puis leva le bras gauche, et ferrant tous les doigts au poing, tenait le pouce contre le front, frappant de la main dextre par 6 fois contre la poitrine. À donc se leva Thomas, et, ôtant son bonnet de la tête, remercia le dit Panurge doucement. Puis dit à haute voix à toute l'assistance « Seigneur, à 7 heures, puis-je bien dire le mot évangélique ? Et est-ce plucam Solomon hic ? Vous avez ici un trésor incomparable en votre présence, c'est Monsieur Pantagruel, duquel la renommée me avait ici attiré du fin fond de l'Angleterre, pour conférer avec lui des doutes inexpugnables. » Tant de magie, de cabale, de géomancie, d'astrologie, que de philosophie, lesquelles j'avais en mon esprit. Mais de présent, je me courrousse contre la renommée, laquelle me semble être envieuse contre lui, car elle n'en raconte point la 1000e partie de ce qu'en est par efficace. Vous avez vu comment son seul disciple m'a contenté et m'en a plus dit que je ne demandais. Et d'abondant m'a ouvert, et ensemble soulu d'autres doutes inestimables. En quoi je vous puis assurer qu'il m'a ouvert le vrai puits et abîme de l'encyclopédie, voire en une sorte que je ne pensais pas trouver homme qui en sût les premiers éléments seulement, et quand nous avons disputé par signe, sans dire mot ni demi. Mais attends, je rédigerai par écrit ce que nous avons dit et résolu, afin que l'on ne pense point que ce ayant été moquerie, et le ferait imprimer, à ce que chacun y apprenne, comme j'ai fait. Dont pouvait juger ce qu'eût pu dire le maître, vu que le disciple a fait telle prouesse. Car non est discipulus supra magistrum. En tout cas, Dieu soit loué et bien humblement vous remercie de l'honneur que nous avez fait à cet acte. Dieu vous le rétribue éternellement. » Semblables actions de grâce rendit Pantagruel à toute l'assistance. Et de là, partant, mena dîner Thomaste avec lui, et croyait qu'ils burent, comme toutes bonnes âmes le jour des morts, le ventre contre terre, jusqu'à dire « D'où venez-vous » Sainte dame, comment il tirait au chevrotin ? Il n'y eut pas sans faute celui qui n'en but 25 ou 30 muits. Et savez-vous comment ? Sicut terra sine aqua. Car il faisait chaud, et davantage se était altéré. Et au regard de l'exposition des propositions mises par Thomaste, et des significations des signes desquels ils usèrent en disputant, je vous les exaucerai, selon la relation de entre eux-mêmes. Mais l'on m'a dit que Thomaste en fit un grand livre, imprimé à Londres, auquel il déclare tout sans rien laisser. Par ce, je m'en déporte pour le présent.